Voilà, pour vous présenter cette aventure du mot hasard dans l'éducation sentimentale, j'ai été obligé de changer de format parce qu'il y a plus d'occurrences que les mots que nous avons vus précédemment et ça prendra un peu plus de temps aujourd'hui. Donc j'essaierai d'avoir à peu près une demi-heure tout à l'heure pour vous parler de ça. Voilà, pour la semaine prochaine, donc quatre passages. Nous avons bien démarré, nous sommes adaptés, nous sommes introduits dans l'univers du roman et nous allons pouvoir maintenant sauter de passage en passage avec le regret, bien sûr, de ne pas pouvoir tout étudier, enfin, qui le souhaiterait, hein. Il faut vous laisser aussi le plaisir de la lecture personnelle sur d'autres passages. Donc, un choix de différentes parties qui correspondront à des épisodes évidemment importants du roman, mais également à des exercices de style ou de portrait, de certains éléments de la société. Donc, une sélection tout à fait arbitraire, que je modifie d'ailleurs chaque semaine, en me disant, tiens, bon, une sorte de pondération, d'équilibre à rechercher. Est-ce que vous avez quelques questions sur la semaine dernière ? C'était donc le chapitre 3. Pas de questions. J'interroge quelqu'un. Bien, on va entrer directement dans le chapitre 4 aujourd'hui. Alors le chapitre 4 est plus long. On arrive dans certains de ces longs chapitres du roman et encore, hein, ça reste, disons, d'une longueur intermédiaire par rapport à d'autres. Mais déjà, comme je disais tout à l'heure, ces parties d'entrée, d'exposition du roman étant passées, nous sommes maintenant dans la pleine vie de Frédéric et pour cet épisode à Paris, en grande partie, et nous allons voir, disons, commencer hein, les premiers pas d'un jeune homme qui essaye de se lancer, de se placer, avec comme modèle, comme on a vu déjà, de Rastignac, de Balzac, et est-ce que l'élève sera à la hauteur de son maître ? Vous connaissez déjà la réponse, bien entendu. Alors j'ai choisi deux passages, pages 57 et 60, et puis pages 67 et 75. Alors ces deux passages correspondent aux deux épisodes principaux du chapitre. D'abord, la découverte de l'univers de l'art industriel, comment ça se passe à l'intérieur, quand on n'est pas simplement un client de la boutique, mais que l'on est un invité ou un hôte du salon, en quelque sorte, que forme l'appartement à l'étage, au-dessus du magasin. Et puis la deuxième partie, c'est bien sûr la réception à la maison des Arnoux, où Frédéric a enfin été invité. Avant de commencer ce premier petit passage, donc des pages 57-60, nous pouvons situer le cadre de ces épisodes. C'est, comme indiqué à la page 49, donc au début du chapitre, première ligne encore une fois, un matin du mois de décembre, en se rendant au cours de procédure, il crut remarquer dans la rue Saint-Jacques plus d'animation qu'à l'ordinaire. Alors ce mois de décembre, il s'agit de décembre 1841, on peut suivre la chronologie. Vous avez d'ailleurs un rapide, enfin un résumé quoi, du livre qui se trouve tout à la fin de votre livre dans les pages grises, aux pages qui sont en chiffres romains, du numéro 7 au numéro 10. De 7 à 10, là vous avez, disons, des résumés de chaque chapitre qui peuvent être utiles hein, lorsqu'on est un petit peu perdu dans la lecture d'un chapitre, mais finalement nous sommes dans quelle année bon, ça peut être utile d'y sauter, d'y faire un saut de temps en temps. Donc nous sommes en décembre 41 et cette animation que Frédéric remarque dans la rue Saint-Jacques, c'est historiquement une de ces émeutes d'étudiants. Et ici, le sujet de cette émeute sera indiqué probablement un peu plus loin, à la page 50. Flaubert ne dit pas exactement que c'est l'explication, disons, de cette émeute, mais enfin, c'est une grande possibilité historique. Le paragraphe du haut de la page 50. Les pétitions pour la réforme que l'on faisait signer dans la garde nationale, jointes au recensement humain, d'autres événements encore, amenaient depuis 6 mois dans Paris d'inexplicables attroupements. Et même, ils se renouvelaient si souvent que les journaux n'en parlaient plus. Il y a donc ce que l'on appellerait aujourd'hui un climat de révolte, un climat occasionnant, disons, divers événements et qui correspond en effet à des événements qui sont arrivés en France pendant cette période, disons jusqu'en 1848, autour de ce thème d'une réforme, qui est une réforme électorale. Il s'agit de redessiner ce qu'on appellerait aujourd'hui la carte électorale, c'est-à-dire où l'on vote, et peut-être plus important encore, qui vote. Car à ce moment-là, le scrutin est ce qu'on appelle censitaire, comme je vous ai dit il y a 2 semaines, je crois, c'est-à-dire lié à une certaine fortune, à une situation relativement fortunée des individus, qui dans chaque canton, dans chaque département, sont inscrits comme votants. Les gens plus pauvres n'ayant pas l'autorisation de voter. Alors c'est principalement cette cause non démocratique hein, qui, au moment où la démocratie, enfin l'idée de démocratie, continue à faire son chemin après la Révolution, malgré les revers qu'elle a subis, le peuple a tout de même entendu autre chose que la voix de l'ancien régime et il essaye de se faire entendre. Et donc ces pétitions pour la réforme ont entraîné des révoltes, en particulier pendant l'été 1841 et finalement plus en province qu'à Paris. Donc Flaubert a choisi ici une révolte à Paris, mais il y a eu de nombreuses révoltes, par exemple à Toulouse, à Bordeaux, à Lille. Il ne s'agit pas d'un phénomène parisien, comme on dit souvent, ça ne se passe que là, mais non. Alors que cette situation donc se répète de temps en temps, au point que les journaux n'en parlent même plus, hein, ça devient une sorte de banalité, la réalité des événements est tout de même un peu différente. Ce que disent les journaux est toujours contrôlé, bien sûr, et de toute façon très résumé, très simplifié. La réalité est différente dans le sens où il y a l'animation de loin, mais de près, c'est plutôt une forme de violence verbale et de violence physique, qui oppose d'une part des groupements de foules qui ne sont certainement pas cohérents. Il doit y avoir plusieurs types de personnes assemblées au même endroit, y compris des étudiants, mais aussi des ouvriers et éventuellement d'autres catégories de personnes. Et bien sûr, en face d'eux, la police. La police qui a certainement, comme toujours, ordre de contenir et qui reçoit parfois l'ordre d'agir pour repousser, disperser, voire très très rarement tirer, comme c'est arrivé, bien sûr, dans l'histoire. Ici, donc, on voit dans ces pages, page 50-51, et la suite, la police contient, c'est-à-dire ne réagit pas aux provocations des manifestants, comme on les appelle aujourd'hui. Là encore, le mot manifestant est anachronique. Aujourd'hui, on dit des manifestants, mais à l'époque, on ne pouvait pas le dire de cette façon. Et Frédéric s'approche, se trouve par hasard, le mot évidemment est important aujourd'hui, à côté d'un jeune homme qui deviendra son ami Hussonnet et qui sera également son introducteur chez les Arnoux. Encore un hasard, donc, rencontrer quelqu'un et que cette personne soit en relation avec Arnoux. À cette occasion, on voit se présenter sous un jour très, disons, très, très héroïque, un autre personnage qui sera Dussardier. Cette sorte d'étudiant Dussardier est un peu différent des autres. Il est plus grand, il est plus fort, et il va se jeter directement dans la bataille au moment où un policier un peu excité ou effrayé aussi avait repoussé un jeune homme qui était tombé. Bon, Dussardier vient en héros pour sauver ce jeune garçon. Sauvé, on n'est pas sûr, mais bon. En tout cas, il intervient. Et ce mouvement, cet héroïsme spontané d'un étudiant impressionne beaucoup Frédéric, qui va ensuite le défendre avec Hussonnet au poste de police en disant que c'est certainement un copain, un étudiant lui aussi, alors que ça n'est sans doute pas le cas. Cette attitude de Frédéric et de Hussonnet, on peut l'appeler la solidarité. Et cette solidarité, elle est donc spontanée. Elle vient spontanément, à la suite simplement de cette émotion ressentie au moment de l'héroïsme de ce jeune garçon. Page 53, en haut de la page. C'est donc Hussardier qui s'explique et qui dit à la deuxième ligne, en discours indirect libre, façon Flaubert, « Il n'avait pu, de sang-froid, voir battre un enfant. » Un enfant qui n'était pas du tout un enfant, un autre étudiant du groupe. « Je m'appelle Hussardier, chez messieurs Valinsart, frères, Dentelle et Nouveauté, rue de Cléry. Où est mon carton? Je veux mon carton. » Alors que la consigne ou l'habitude des manifestants, là j'utilise le mot d'une façon générale, est toujours de ne pas révéler leur identité, en particulier devant les policiers, et d'essayer plutôt de fuir pour éviter d'être interpellé, d'être arrêté, Dussardier va lui-même se nommer, décliner son identité en disant qui il est, d'où il vient, où il travaille. Et cette attitude fait partie de son un héroïsme momentané, mais plus généralement fait partie de son caractère. Ce genre de caractère qu'on appelle un caractère entier, quelqu'un qui ne ment pas, qui ne calcule pas, qui réagit de façon spontanée, mais tout de même selon ses convictions intimes et profondes, sans essayer de se cacher ou de jouer à un jeu quelconque. C'est très important parce que dès cette première rencontre avec du sargon, ce caractère de ce personnage est affirmé dans l'action par Flaubert. Il n'est pas décrit comme étant ceci ou cela, comme ce sera le cas pour Sénécal par exemple. Il est directement pris sur l'action dans cette attitude qui symbolise, résume son caractère. Et c'est évidemment très important puisque, si je me permets de faire un court-circuit entre son entrée dans le récit et sa mort, la mort de Dussardier est exactement équivalente à ce premier épisode. La mort de Dussardier, elle intervient également sur une sorte de coup de hasard, comme on peut le voir, à la fin du chapitre 5 de la troisième partie, c'est-à-dire à la page 107, 106 et 107, 107, oui. Voilà, il s'agit donc du coup d'État de Napoléon III, et donc longtemps après 48, hein, évidemment, enfin pas très longtemps, mais disons assez longtemps quand même, et je vous lis les dernières lignes. Entre les charges de cavalerie, page 507. Entre les charges de cavalerie, des escouades de sergents de ville survenaient pour faire refluer le monde dans les rues. Donc il s'agit de le retour à l'ordre organisé par la police à cheval. Donc on n'est plus dans une situation d'émeute insurrectionnelle de type démocratique, on est dans une situation de retour à l'ordre de type dictatorial. Mais sur les marches de Tortoni, un homme, et ici entre tirets, Dussardier, le mot est sorti en quelque sorte de la phrase, hein. Un homme, Dussardier, remarquable de loin à sa haute taille, restait sans plus bouger qu'une cariatide. Un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée. L'autre alors, s'avançant d'un pas, se mit à crier « Vive la République !» Il tomba sur le dos, les bras en croix. Un hurlement d'horreur s'éleva de la foule. L'agent fit un cercle autour de lui avec son regard et Frédéric, béant, reconnut Sénécal. C'est la fin du chapitre et, dans un certain sens, c'est la fin du roman. Les deux chapitres qui suivent sont des espèces de continuation, hein, longtemps plus tard, et ce longtemps plus tard correspond à, disons, qu'est-ce qui peut se passer des années après que le roman est fini, aura été fini. Et en effet, les différents événements qui arrivent dans ce chapitre de la troisième partie sont tous très négatifs, tous très mauvais. La mort de l'enfant, l'impossibilité du mariage, la découverte du mariage de Delaurier avec la petite Louise. Enfin, c'est une cascade d'annonces catastrophiques, toutes plus ou moins d'ailleurs découvertes par hasard par Frédéric qui passait par là, y compris le mariage, hein, puisqu'il retournait chez lui et par hasard il tombe sur le mariage de Delaurier. Absolument incroyable. Il revient à Paris, il est dans la foule et il voit un homme. Ah, par hasard, c'est Dussardier. Et quelqu'un lui demande de s'en aller ou de se taire. Et il répond, vive la République, au moment du coup d'État. Hein, la réponse est instantanée. Flaubert ne l'écrit même pas. Hein, c'est-à-dire, à la suite de un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée, et juste après, il tomba sur le dos. C'est-à-dire que Flaubert n'a même pas besoin de dire que l'épée sert tout de suite à tuer cet homme. Comme si le coup était tellement rapide, tellement incroyable, que on n'avait pas le temps de l'écrire. Et on s'aperçoit juste après que c'est Sénécal. Donc cet enchaînement est vraiment terrible, et on voit Dussardier ici qui se montre tel qu'il l'a toujours été, c'est-à-dire affirmant sa conviction, son opinion, comme au premier jour. Alors que Sénécal, lui, a beaucoup changé de position, d'opinion, de situation pendant toutes ces années. Ce sont donc deux figures contraires, qu'on peut appeler antithétiques dans le sens où elles sont vraiment par nature opposées. Et cette antithèse est proposée par Flaubert d'une façon vraiment très claire dans le roman. Il ne s'en cache pas. Alors je reviens à la page 53. Nous avons en quelque sorte, nous aussi, liquidé Dussardier, puisque ses différentes interventions dans le roman seront toujours de même nature. Il sera toujours tel qu'en son caractère, pris ici la première fois. Alors on voit tout en bas de la page 53 comment Hussonnet et Frédéric simulent de connaître Dussardier pour essayer de l'aider vis-à-vis de la police. « Tu ne nous reconnais pas ?» dit Hussonnet. Alors l'autre, il comprend pas très bien ce qui lui arrive d'être... il comprend pas qu'il est aidé, quoi. Page 54. « Mais, balbutia Dussardier, ne fais donc plus l'imbécile, etc. etc. » Cette situation va ensuite les emmener au poste de police où ils vont laisser quelque chose à Dussardier qui sera relâché par la suite. Cet épisode permet à Frédéric et à Hussonnet de fraterniser, comme je disais tout à l'heure, cette solidarité, cet héroïsme entraîne une fraternisation entre deux personnes qui ne se connaissaient pas une demi-heure avant. Et les voilà qui s'en vont déjeuner au café Tabouret, page 55, devant le Luxembourg. Et on les voit, tout en séparant le beefsteak, Hussonnet apprit à son compagnon qu'il travaillait dans des journaux de mode et fabriquait des réclames pour l'art industriel. « Chez Jacques Arnoux, » dit Frédéric, « vous le connaissez ?»« Oui, non, c'est-à-dire je l'ai vu, je l'ai rencontré. » Bon, voilà donc ce hasard de la rencontre. Et quelques lignes plus bas, juste après d'ailleurs, il demanda négligemment à Hussonnet s'il voyait quelquefois sa femme, de temps à autre, reprit le bohème. Je parlerai tout à l'heure de ce bohème lorsqu'il va se représenter. Frédéric n'osa poursuivre ses questions. Cet homme venait de prendre une place démesurée dans sa vie. Il paya la note du déjeuner, etc. Cet homme venait de prendre une place démesurée dans sa vie signifie que Frédéric mesure tout de suite l'intérêt qu'il peut tirer de cette connaissance de Hussonnet. Alors, c'est tout à fait normal, je crois que ça arrive à tout le monde, mais le premier geste de rencontre de Hussonnet était tout à fait désintéressé. Donc, vient, disons, d'un bon côté de Frédéric, et juste après, il a en quelque sorte une récompense, juste récompense du destin, comme on pourrait dire, puisque vous avez rencontré cet homme dans cette situation, et bien voilà, il peut vous être utile. Donc ce n'est pas un calcul de la part de Frédéric, c'est un résultat positif du hasard, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors bon, la sympathie était mutuelle, donc ils vont décider de se revoir. Je passe à la page 56. Malgré tout, la différence entre les deux personnes est tout à fait flagrante. Page 56, milieu de la page à peu près. Lorsque Ussonnet exprime un peu ses goûts artistiques ou littéraires, ils sont tout à fait différents et même très loin, voire opposés, de ceux de Frédéric. Puis, remarquant sur l'étagère un volume de Hugo et un autre de Lamartine, il se répandit en sarcasme sur l'école romantique. Ces poètes-là n'avaient ni bon sens ni correction, et n'étaient pas français surtout. Il se vantait de savoir sa langue et épluchait les phrases les plus belles avec cette sévérité hargneuse, ce goût académique qui distingue les personnes d'humeur folâtre quand elles abordent l'art sérieux. Frédéric fut blessé dans ses prédilections. Il avait envie de rompre. Pourquoi ne pas hasarder tout de suite le mot d'où son bonheur dépendait? Il demanda au garçon de lettres s'il pouvait le présenter chez Arnaud. Donc, Frédéric, en quelque sorte fidèle lui aussi à son caractère hein, d'impulsivité, de vivre selon ses sensations, ses impressions, lorsqu'il découvre les goûts et quand même le sarcasme un peu méchant de Ussonnet, a plutôt envie de rompre. Mais il se souvient quand même que ça peut être utile, donc il faut continuer. Cette opposition qui est faite ici entre les romantiques se fait entre les romantiques et quoi, précisément ? Eh bien, je ne vois que le mot « académique » qui suit dans le même paragraphe. Est-ce qu'il est raisonnable d'opposer romantique et académique? Sur une question de pure forme, on peut dire que oui. Et c'est sur ce point, sur cette ligne, disons, que se place Ussonnet sur une question de pure forme, qui est la forme de la langue française, le sujet de la langue française. Donc, même si les thèmes, les sujets du romantisme peuvent eux aussi prêter à rire, hein, même aujourd'hui encore, dans certains cas, Ussonnet attaque sur la correction française. Et là, on peut se souvenir des batailles de Hugo, mais pas seulement, et d'autres, sur le fait même qu'un vers ait une telle forme, et qu'il y ait un rejet au vers suivant de telle nature, et que la rime se fasse de telle façon. Ce sont des questions de forme sur lesquelles Hugo ou d'autres ont été beaucoup critiqués. Et d'une façon même plus violente, que sur les sujets ou les thèmes. Alors, en fait, c'est tout à fait mêlé. On veut que Victor Hugo, par exemple, abîme la langue française en même temps qu'il défend le peuple ou l'individu. Hein, donc, ça semble aller ensemble. Aujourd'hui encore, il existe des gens qui disent que vouloir le bien du peuple, de tous, c'est nuire à la culture dominante, élitaire d'un pays, par exemple. En quelque sorte, il faut que ce soit des élites qui dirigent, qui choisissent, et le peuple n'a qu'à obéir et travailler. Donc, l'expression de tous, individuelle, etc., telle qu'elle peut se faire aujourd'hui dans l'Internet, est par exemple très critiquée, exactement de la même façon, y compris publiquement, par des membres du gouvernement français. Je ne sais pas ce qu'il en est au Japon, hein, je vous laisse juge des déclarations, mais en France c'est tout à fait étonnant, hein, cette façon de parler de l'expression publique. Alors bon, je ne m'écarte pas de notre sujet. Et les voilà qui vont convenir d'un rendez-vous pour aller chez Arnoux. Alors ça ne se fait pas tout de suite parce que le jeune homme est très occupé et il a une vie, comme on verra tout à l'heure, de bohème, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment d'horaire régulier, il ne respecte pas tout à fait ses rendez-vous, donc il faut attendre un petit peu. Alors c'est à la troisième reprise, ou après la troisième reprise, que viendra enfin la possibilité de ce rendez-vous. On arrive à la page 56, tout en bas, lorsque ils entrent dans la boutique et qu'ils montent l'escalier. Je lis ce paragraphe qui commence en bas de la page 56. Cinq ou six personnes, debout, emplissaient l'appartement étroit qu'éclairait une seule fenêtre donnant sur la cour. Un canapé en damas de laine brune occupait au fond l'intérieur d'une alcôve entre deux portières d'étoffe semblables. Sur la cheminée couverte de paperasse, il y avait une Vénus en bronze. Deux candélabres, garnis de bougies roses, la flanquaient parallèlement. À droite, près d'un cartonnier, un homme dans un fauteuil lisait le journal en gardant son chapeau sur sa tête. Les murailles disparaissaient sous des estampes et des tableaux. Gravures précieuses ou esquisses de maîtres contemporains, ornées de dédicaces qui témoignaient pour Jacques Arnoux de l'affection la plus sincère. « Cela va toujours bien ?» fit-il en se tournant vers Frédéric, et sans attendre sa réponse, il demanda bas du sonnet « Comment appelez-vous votre ami ?» Puis tout haut « Prenez donc un cigare sur le cartonnier dans la boîte. » L'art industriel, posé au point central de Paris, était un lieu de rendez-vous commode, un terrain neutre où les rivalités se coudoyaient familièrement. On y voyait ce jour-là Anténor Brève, le portraitiste des rois, Jules Burieux, qui commençait à populariser par ses dessins les guerres d'Algérie, le caricaturiste Sombaz, le sculpteur Vourda, d'autres encore. Et aucun ne répondait aux préjugés de l'étudiant. Leur manière était simple, leurs propos libres, le mystique Lovarias débita un conte obscène, et l'inventeur du paysage oriental, le fameux Dittmer, portait une camisole de tricot sous son gilet et prit l'omnibus pour s'en retourner. Cette première entrée, donc à l'étage, dans le petit salon de Arnoux, s'écarte tout de suite de ce qu'il était convenu, justement, depuis le XVIe ou le XVIIe siècle, d'appeler « salon littéraire ». Ce qu'on appelait salon littéraire était d'abord organisé par l'obéissance à une certaine politesse, des codes de comportement, des ordres, des positions à respecter, tout ce que l'on appelle d'une façon générale la bienséance. Bienséance qui vient de séance, c'est-à-dire assis, et la bienséance, ce serait en quelque sorte l'art de bien s'asseoir. Alors c'est une image qui veut dire de bien se comporter dans un groupe où il y a des personnalités en général importantes du monde intellectuel ou politique, ou à l'époque, au XVIIe siècle, du monde ecclésiastique, diplomatique, aristocratique, etc. Alors, ces salons avaient déjà connu des périodes assez mouvementées, en particulier à l'époque de l'encyclopédie, c'est-à-dire avant la Révolution, avec des gens comme Diderot, par exemple, qui étaient beaucoup plus animés dans leur façon de s'exprimer, et qui parfois étaient presque jetés dans la rue par la maîtresse du salon, puisque très souvent ces salons étaient tenus par des femmes, mais pas toujours. Donc, des périodes d'agitation avaient déjà été rencontrées, mais la réglementation, la bienséance organisée par des dames était généralement respectée. Évidemment, pendant la Révolution française, une autre sorte de salon apparaît, pendant et avant et après, qu'on pourrait plutôt associer ou assimiler à des clubs. Des clubs où les gens viennent s'exprimer politiquement d'une façon beaucoup plus violente, voire combative, même au sens propre. Et l'ensemble de ces clubs, organisés en groupes politiques, a en quelque sorte fini par déclencher la Révolution française. Même si le peuple avait faim, ça ne suffisait pas pour organiser une révolution d'ensemble. Donc c'est à la suite de ces trois siècles d'histoire, disons, de salons et de clubs, que Flaubert nous présente cette petite assemblée un peu étrange de l'art industriel. On pourrait y voir un portrait un peu ridicule, à la fois d'un salon littéraire et d'un club politique révolutionnaire. En effet, ce ridicule pourrait être exprimé par ce qui est dit dans le dernier paragraphe que j'ai lu, l'art industriel posé au point central de Paris. D'abord, qu'est-ce que c'est le point central de Paris ? Franchement, si c'est le point géographique, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Donc, c'est une forme de ridicule. Et c'est peut-être une parole de Arnoux. Parce que dans l'expression de Flaubert se cache toujours la possibilité d'un discours indirect libre qui soit donc la reprise d'une parole de quelqu'un. Et on peut tout à fait imaginer Arnoux ou quelqu'un d'autre dire « Ah, mais l'art industriel, c'est tout à fait le centre de Paris !» Et évidemment, ce serait une bêtise ridicule. Donc, cette affirmation de Flaubert est en soi inutile, hein, puisque le centre géographique n'a pas beaucoup d'intérêt, et d'ailleurs ça ne doit pas être ici, hein. Boulevard Montmartre, le centre de Paris, géographiquement, ça doit être un petit peu plus bas, hein, peut-être sur l'île de la cité, par exemple, hein, géographiquement. Donc, c'est un propos ridicule. Et puis, sur ce terrain neutre, se coudoyait des rivalités. Des rivalités, c'est-à-dire des gens de bord, de tendances opposées, que ce soit artistique, politique ou philosophique. Mais là encore, cette affirmation n'est pas argumentée par Flaubert. Flaubert n'explique pas pourquoi les gens seraient opposés les uns aux autres. Et au contraire, il nous fait une sorte de liste d'étalage, de quelque chose qui serait posé comme ça sur la table un peu par hasard et qui ne crée pas de sens dans l'opposition ou le groupement ou le dégroupement des personnes. Alors, on a un portraitiste de roi, on a quelqu'un qui dessine pour les guerres d'Algérie, un caricaturiste. Donc caricaturiste, c'est plutôt dans le sens de la moquerie, de se moquer dans des journaux satiriques. Donc ça pourrait être quelqu'un qui s'oppose au portraitiste des rois, par exemple, mais ça n'est pas dit par le texte. Un sculpteur, sans explication, Bourdin. Et aucun ne répondait aux préjugés de l'étudiant. Ça, dans un sens, ça pourrait être positif. C'est-à-dire, aucun ne répondait aux préjugés, aucun ne correspondait aux stéréotypes que Frédéric s'attendait à voir. C'est-à-dire, Frédéric avait des idées reçues, comme on dit, des idées préconçues, et pour lui, un sculpteur devait être peut-être comme les figures romantiques, hein, justement, quelqu'un qui serait tourmenté, un portraitiste devrait s'exprimer d'une certaine façon, enfin, des idées préconçues. En l'occurrence, ils sont beaucoup plus naturels. Manière simple, propos libre. Et alors, Dès que l'on parle de manière simple et de propos libres, ce qui pourrait être donc quelque chose de positif, de bien, automatiquement le mot libre entraîne l'excès de liberté du côté de l'obscène. Le mystique, le varias, débita un compte obscène. C'est-à-dire que cette liberté de parole ne sert pas à exprimer des idées de liberté, mais, pour l'exemple qui est donné ici, hein, elle sert uniquement à dire quelque chose, débiter une histoire, c'est-à-dire raconter une histoire à caractère un peu salacieux, érotique, pornographique, ou quelque chose comme ça. Donc la liberté de parole n'a pas véritablement une fonction élevée, hein, positive, dans ce salon. Voilà pourquoi j'ai l'impression que cette présentation du salon, même si elle impressionne beaucoup Frédéric, doit laisser au lecteur un sentiment assez mitigé, mélangé, un mi-chaud, mi-froid, par rapport à la qualité de ce salon ou de ce club. La suite d'ailleurs continue dans ce sens, hein, après le paragraphe que je lisais, il est question d'une Apollonie, ancien modèle, donc une jeune femme qui était modèle, c'est-à-dire certainement d'origine pauvre, hein, qui servait de modèle à des peintures, et qui maintenant se promène dans une daumon. Alors une daumon, D-A-U-M-O-N-T, c'est, disons, la transformation d'un nom propre en nom commun. Et qui vient d'un aristocrate nommé Daumon. Où est-ce qu'il est, celui-là ? C'est donc une voiture tirée par quatre chevaux, et deux des chevaux sont montés par des cavaliers. Et la voiture elle-même est évidemment assez luxueuse, avec des suspensions, par exemple, pour le confort des passagers. Cette voiture était relativement nouvelle sous la Restauration, donc la période précédente, dans les années 20, disons, et elle a été popularisée, popularisée, c'est pas tout à fait le mot, parce que c'est pas le peuple qui se promène en deux mondes, elle a été, disons, montrée dans Paris par un duc d'Aumont, qui est mort en 1831. Donc, vous voyez, il est déjà mort et enterré au moment des faits, mais cette mode est devenue quelque chose, un signe de luxe, un signe de luxe et de réussite sociale. Et donc on a ce qu'on appelle aujourd'hui une ascension sociale. D'une jeune femme qui était modèle de peinture et qui maintenant se promène en voiture de luxe. Donc ce serait un peu comme aujourd'hui, hein, une talento qui commence dans un boys band et qui finit dans une très grande voiture comme ça à Hollywood, hein, en l'espace de 2 ou 3 ans, quoi. Un peu ce style. Et alors la réplique de Arnoux, puisque c'est Ussonnet qui expliquait cette métamorphose, donc ici que j'appelle ascension, métamorphose, transformation de la personne, par la série de ses entrepreneurs. Alors là, c'est une sorte d'expression amusante, hein, de la part de Flaubert. On pourrait dire euphémique. Un euphémisme, c'est une façon de s'exprimer, disons, poli. Une façon polie de ne pas dire les véritables mots. Il s'agit en effet des personnes qui entretiennent cette jeune fille, de ses amants, hein, de ses souteneurs, de ses amants, de ses, etc., comme on en verra beaucoup d'autres après dans le roman. Mais je crois que pour Frédéric, c'est une sorte de découverte. Il est vraiment très très naïf dans ce domaine. Expliqua cette métamorphose par la série de ses entreteneurs, ceux qui l'entretiennent. Donc entretenir une jeune personne, c'est lui fournir l'appartement, l'argent dont elle a besoin, etc. Ça deviendra bien sûr très célèbre dans le théâtre, avec ce qu'on appelle le triangle du mari, de l'amant et de la femme, qui sera donc popularisé un petit peu plus tard, dans ce 19e siècle. Et Arnoux répond à propos du sonnet: « Comment ce gaillard-là connaît les filles de Paris ?» C'est-à-dire, sous un mode d'exclamation, affirmant que Husonnet connaît effectivement toutes les filles, mais ça veut dire aussi être très bien informé de toutes les affaires secrètes des personnalités. Et la réponse de Husonnet: après vous, s'il en reste, sire. Alors c'est une réponse un peu ironique, sarcastique même, on pourrait dire, de celui qui est l'employé, hein, puisque Husonnet est en quelque sorte l'employé de Arnoux. Et Husonnet répond en se moquant un peu d'Arnoux, mais en nous indiquant tout de même que Arnoux, lui aussi, doit connaître assez bien ce genre de femme. Pour Frédéric, ces échanges de paroles doivent être assez mystérieux, comme si Frédéric, ne connaissant rien, notait ses propos sans les comprendre. Et c'est une dimension importante, je crois, de cette scène. Beaucoup de choses sont dites par des personnages de façon très brève et ne sont pas expliquées par Flaubert, dans un but très simple, qui est que le lecteur doit se trouver dans la même situation que Frédéric, qui est une situation d'incompréhension par le fait de ne pas être initié, de ne pas être un habitué de ce monde-là. En effet, si l'on est initié, si l'on connaît un peu mieux la société de cette époque, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'entre nous, même à la première lecture, on peut comprendre que ces personnages cachent une vie secrète, d'autres activités, etc. Mais ça n'est pas expliqué par Flaubert. Donc, nos jeunes gens qui lisent l'éducation sentimentale pour la première fois à l'âge de 15 ou 16 ans ne comprennent rien à ces propos. Alors que vous et moi, qui sommes un petit peu plus avancés, nous voyons très bien ce qu'il peut y avoir en dessous, ce qu'il doit y avoir en dessous normalement. Donc c'est une façon très habile, je crois, de Flaubert de montrer à la fois la naïveté de Frédéric et en même temps d'indiquer la tonalité exacte des propos. On ne résume pas, on donne les paroles de chacun et sans explication, sauf ce que voit Frédéric autour de lui. Après vous, s'il en reste, sire, répliqua le bohème avec un salut militaire pour imiter le grenadier offrant sa gourde à Napoléon. Alors, de cette façon, d'ailleurs, Flaubert détourne un petit peu le sujet pour son lecteur. On imagine Husonnet qui fait donc un salut un peu comme ça, un peu cérémonial à Arnoux, comme ce qu'on dit Napoléon, ayant pris la gourde d'un grenadier, c'est-à-dire d'un simple militaire, a bu dans sa gourde et ensuite l'a remercié. Alors c'est un épisode réel, connu, noté dans les mémoires impériales et de guerre que Napoléon, un jour, au lieu de demander à boire aux personnes qui lui apportent habituellement à boire, hein, s'est trouvé à côté d'un grenadier et qu'il avait très soif, et il a bu directement dans la gourde d'un homme du peuple. Et c'était montré aussi de la part de Napoléon qu'il ne voyait pas de différence entre lui et cet homme, qu'il pouvait boire directement dans sa gourde. Une manifestation aussi de la solidarité, de l'affection que Napoléon avait pour ses militaires. Alors je saute quelques personnages, quelques paragraphes, et j'en arrive à la page 60. Quelque chose à dire. Ah oui, c'est ça. Voilà. Avant d'arriver à la page 60, pardon, je vais finir sur l'histoire de Bohème. Alors, ce Hussonnet a été nommé deux fois Bohème, et nous sommes en 1841. Alors, le mot Bohème, d'abord, désigne à l'origine une région de l'Europe de l'Est, d'où une certaine population ayant un certain comportement est censée venir en particulier vers l'Europe de l'Ouest. Et on les voit généralement vivre pauvrement, faire la mendicité, se déplacer toujours d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire des populations essentiellement nomades. Le terme existe encore aujourd'hui, on les appelle gypsies en anglais, Rome, Romano, Romanichel, et ça, il y a beaucoup de mots différents, et il semble que ce soit plus ou moins la même population d'origine que l'on désigne par tous ces mots. Mais je suis prudent avec le vocabulaire, parce que, évidemment, il ne s'agit pas des mêmes. Et même s'il s'agissait des mêmes, leur comportement ou la signification du mot aujourd'hui peut être tout à fait différente. Donc je mets ça de côté. Le mot a ensuite été utilisé, justement dans les années 1840, pour qualifier une certaine façon de vivre pauvre d'étudiants à Paris, dans le quartier latin. On a commencé à les appeler des bohèmes qui mènent la vie de bohème comme des bohémiens. Donc c'est à l'origine une comparaison avec une population dont on ne savait pas grand-chose, sinon son apparence pauvre et nomade. Et alors, ça deviendra ensuite, bien sûr, vous connaissez l'opéra de Puccini, qui est une des œuvres les plus célèbres parlant de ce mode de vie, de cette période de la vie des étudiants en France. Mais ce que l'on sait moins souvent, mais que vous savez peut-être, l'opéra de Puccini est lui-même basé sur une publication d'un homme de lettres français, je dirais écrivain, romancier, qui s'appelle Henri Murger, M-U-R-G-E-R. Et qui a publié en 1851 un livre intitulé « Scènes de la vie de Bohème ». Scènes au pluriel. Les scènes de la vie de Bohème. Et même si aujourd'hui ce livre n'est plus très connu, plus très lu, vous pouvez le trouver très facilement sur Gallica, sur Internet, et dans beaucoup de librairies, je pense, de bibliothèques, pardon, librairie, ici c'est un peu plus difficile, bibliothèque. À l'époque, c'est-à-dire au XIXe siècle, c'est un livre qui a connu beaucoup, beaucoup de succès. de très nombreuses rééditions, retirages, et on en compte dans le catalogue de la Bibliothèque nationale des dizaines de rééditions, au point d'être repris donc comme livret de l'opéra de Puccini. Alors ce Henri Murger a vécu lui-même la vie de Bohème dans les années 1830-1840, et il a d'ailleurs commencé à publier des petites parties de son livre « Scènes au pluriel de la vie de Bohème » à partir de 1845, dans des journaux, petite revue de l'époque, et il en a publié comme ça plusieurs pendant un certain temps, jusqu'à les rassembler ensemble en un volume pour faire les scènes de la vie de Bohème. Donc les scènes de la vie de Bohème ne constituent pas un roman au sens habituel, mais plutôt l'association de plusieurs nouvelles, un peu réécrites, disons, remodelées, a formé une sorte de chronique de la vie de Bohème, donc des étudiants du quartier latin à cette époque. Alors bien sûr, Flaubert, écrivant son livre dans les années 60, connaît très bien ce livre de Murger, et lui-même, ayant eu à peu près cet âge-là à la même époque, a pu connaître évidemment de très près, lui aussi, la vie de Bohème. On ne peut pas dire pour autant que Ussonnet représente Flaubert, hein, d'une quelque façon que ce soit. Mais il est un type d'individu qui vivait de cette façon à Paris. Aujourd'hui, on dirait tout à fait dépendant de personnalités comme Arnoux, qui ont un petit peu de pouvoir, qui ont des positions, et qui font travailler ce genre de jeunes gens à écrire des papiers, porter des commissions, et toutes sortes de choses, comme aujourd'hui, on dirait, des stagiaires ou des nègres dans l'édition, hein, qui servent à écrire des livres ou des discours. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ceux d'aujourd'hui soient plus riches que les bohèmes de l'époque, hein, puisque nos stagiaires en France se plaignent du fait que les stages ne sont pas rémunérés, et ça depuis déjà assez longtemps. Voilà donc pour ce personnage de Ussonnet. Et je passe à la page 60. Alors, une femme est apparue. En effet, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais il n'y avait que des hommes. Et une note l'indique à un moment, dans une ambiance de cigares que fume plus ou moins tout le monde, ça doit être assez enfumé et la lumière a du mal à passer là-dedans. Ça, c'était plutôt du côté des clubs, hein, finalement, où on se comportait comme ça. Alors, cette femme qui entre, ça n'est pas Madame Arnoux, comme Frédéric devait le supposer au début, c'est une demoiselle qui s'appelle Mademoiselle Vatnaz, qu'on appellera tout le long du roman la Vatnaz, au sens où on disait... à propos d'une actrice, par exemple, hein, là, ceci, là, cela, avec son nom de scène. Alors, dans un petit cabinet, Mademoiselle Vatnaz et Arnoux discutent ensemble, d'une façon plus ou moins vive, sans que l'on puisse comprendre exactement ce qui se dit, mais on peut en conclure, et Flaubert en conclut, au milieu de la page 60 à peu près, Arnoux lui avait encore promis quelque chose. « Oh, plus tard, nous verrons. Adieu, homme heureux, » dit-elle en s'en allant. Arnoux rentra vivement dans le cabinet, écrasa du cosmétique sur ses moustaches, haussa ses bretelles pour tendre ses sous-pieds, et, tout en se lavant les mains, « Il me faudrait deux dessus de porte à 250 la pièce, genre boucher, est-ce convenu ?»« Soit, dit l'artiste, devenu rouge. Bon, et n'oubliez pas ma femme. » Ce morceau de scène correspond à l'activité dont Frédéric est témoin dans cet appartement. Et là encore, on ne comprend pas exactement ce qui s'est joué avec la Vatnaz, Mais en conclusion, il y a une commande de peinture pour un peintre, ce qu'on appelle dessus de porte, c'est une peinture qu'on va mettre au-dessus de la porte, donc c'est plutôt de la décoration d'intérieur. Et là, on voit bien la différence entre un peintre qui peint ce qu'il veut et une sorte d'artisan ou d'ouvrier qui exécute des commandes de quelqu'un sur un sujet quelconque. Finalement, ça n'a pas d'importance. Donc c'est plutôt des sortes d'artistes qui sont employés par Arnoux plutôt que Arnoux comme un marchand d'art tel qu'on peut le connaître par exemple au XXe siècle avec des grands collectionneurs qui ont été mécènes de grands peintres ou de sculpteurs, mais qui ont toujours respecté leur travail, qui ne sont pas venus demander un truc pour décorer au-dessus de la porte. On n'aurait pas imaginé ça. Donc c'est un rapport de force entre l'artiste et son commanditaire qui est tout à fait, bien sûr, négatif, au sens de servile pour l'artiste. L'artiste est servile, il est une sorte d'ouvrier ou d'esclave au service d'un industriel. Et là encore, on retrouve le terme d'art industriel, et on peut voir à quel point cette sorte d'antinomie entre les mots, qui forme comme un oxymore, si vous voulez, constitue également une sorte de piège pour les personnes qui y viennent. En effet, tous ces artistes qui viennent ici chez Arnoux à l'art industriel ont l'impression de venir dans un endroit où industriel signifie moderne, au sens où au XXe siècle on a parlé de modernité, la modernité de l'art, etc. Et là, industriel, une sorte de préfiguration de ce jeu avec le mot moderne. Alors que, en réalité, pour Arnoux, industriel a exactement son sens de industrie, c'est-à-dire vous travaillez pour moi à une production mécanique, automatisée, pour laquelle vous êtes payé à la pièce. Vous êtes payé à la pièce comme un ouvrier qui répète le même geste sur une chaîne. Donc, cette expression art industriel fonctionne bien comme un piège avec un double sens. Ceux qui viennent pour l'image de modernité et celui qui les emploie avec la réalité industrielle de mécanisation. Le roman nous montrera un certain nombre d'épisodes de ce malentendu, disons, qui repose sur ce terme, avec des artistes qui souhaitent se faire valoir, être de vrais artistes, et cette sorte d'employeur qui va toujours les rabaisser à un travail d'exécutant de petites commandes, plus ou moins malhonnêtes d'ailleurs, puisque dès ce passage, il est question de tableaux sur lesquels on met des signatures de grands maîtres et qui sont ensuite revendus en faisant un circuit international. Bon, tout ça est assez malhonnête. Et Arnoux semble bien sûr être l'organisateur de toutes ces choses. Mais Frédéric ne comprend rien à tout cela, bien entendu. Des questions sur ce premier passage? Je sais qu'il y a pas mal de questions de vocabulaire ou de nom propre également. On n'a pas le temps de tout voir, bien sûr, mais enfin, s'il y en a un qui vous est vraiment nécessaire, on peut s'y arrêter. Bon, sinon, vous direz la semaine prochaine. on va passer à la deuxième partie pour aujourd'hui, c'est-à-dire les pages 67 à 75, où on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Il y a, disons, moins de détails sociologiques à remarquer. Alors, cet épisode, le deuxième que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est le dîner rue de Choiseul, c'est-à-dire tout près du boulevard Montmartre. Hein. On reste dans le quartier, dans le deuxième arrondissement, et c'est deux rues à côté. Mais évidemment, Frédéric ignorait l'adresse de la résidence privée d'Arnoux jusqu'au moment où celui-ci lui a donné l'adresse. Comment cet épisode arrive? D'abord, Frédéric est sorti de l'appartement, du club, où on l'a décrit juste avant. Il est parti avec Pellerin, le peintre qui parle haut et fort de ses convictions, mais qui lui aussi est obligé finalement de passer par les conditions d'Arnoux. Et donc ce peintre qui prétend être un grand, un maître, qui a beaucoup de difficultés à le prouver, semble-t-il, passe une bonne partie de son temps à dire du mal d'Arnoux, à critiquer son ignorance ou sa façon très mercantile, donc commerciale, de traiter l'art de la peinture. Pour résumer cette position, disons, de Pellerin vis-à-vis d'Arnoux, on peut prendre le mot à la page 66, presque au milieu de la page, un petit peu au-dessus, une expression d'ailleurs entre guillemets, la crasse d'Arnoux. Entre guillemets parce que, justement, Flaubert nous dit bien qu'il cite Pellerin. Sans les guillemets, on aurait pu penser que c'était l'interprétation de Flaubert ou ce que Flaubert voulait indiquer au lecteur. Mais avec les guillemets, on comprend bien qu'il s'agit de la parole de Pellerin. Donc il est à laisser dans la personnalité de Pellerin et ça ne veut pas dire que Arnoux est vraiment comme ça. Alors crasse, la crasse c'est la saleté, hein, la saleté épaisse, hein, que l'on trouve sur des objets, mais signifie ici, sous forme de métaphore, en quelque sorte la bêtise qui recouvre le caractère d'une personne au point de l'empêcher de voir la beauté des œuvres d'art. Donc on dit parfois la crasse dans les yeux, la crasse de l'esprit, la crasse des sens, hein, qui signifie donc qu'on ne peut pas voir directement par soi-même. Il y a une sorte de couche de saleté qui empêche la personne d'avoir un regard direct. Cela suppose d'ailleurs que s'il n'y avait pas cette couche de saleté, la personne qui est en dessous pourrait apprécier correctement l'art. Ça veut dire aussi que Arnoux n'est pas né complètement stupide. On ne peut pas dire qu'Arnoux n'a aucun sens artistique. Mais s'il en a, s'il a des connaissances, s'il a du goût, c'est recouvert par quelque chose comme de la bêtise, ou une attitude commerciale, peut-être aussi mercantile, hein, qui couvre tout ça. Bon, Pellerin, de façon très lapidaire, comme ça, très directe, la crasse. Très bien. Bon mot que l'on garde. Et alors, dans cette situation où Frédéric n'était pas très content tout de même de son passage parmi ces gens, il n'a pas bien compris, il n'a pas beaucoup apprécié, et surtout, lui-même, Frédéric, n'a pas du tout été considéré par les personnes. ce qui d'ailleurs est un peu normal, puisque il ne sait rien, il ne connaît personne, il n'offre aucun intérêt. Alors lui qui pensait, comme chez les romantiques, hein, simplement qu'il fallait apparaître pour briller, il est tout à fait déçu. Et cette déception devient, dans cette sentimentalité de Frédéric, une sorte de refus, de rejet, un peu de Arnoux. Mais, mouvement contraire, lorsque Pellerin attaque Arnoux d'une façon un peu quand même excessive ou exagérée, pense Frédéric, hein, alors Frédéric va le défendre. Et on arrive à la page 67. Donc, en haut de la page, « Ce ne sont pas mes affaires, dit Frédéric. Quel intérêt avez-vous donc à le défendre ?» reprit froidement Pellerin. Le jeune homme balbutia, « Mais parce que je suis son ami. Embrassez-le de ma part. Bonsoir. » Et le peintre sortit furieux, sans parler, bien entendu, de sa consommation. Frédéric s'était convaincu lui-même en défendant Arnoux. Dans l'échauffement de son éloquence, il fut pris de tendresse pour cet homme intelligent et bon. Oui, ça change complètement en quelques minutes. Que ses amis calomniaient et qui maintenant travaillaient tout seul, abandonné. Il ne résista pas au singulier besoin de le revoir immédiatement. 10 minutes après, il poussait la porte du magasin. Donc là encore, on voit bien le mécanisme, le fonctionnement du caractère de Frédéric. Une impulsion et automatiquement, sans réfléchir, une action. Et cette action débouche sur une situation plus ou moins problématique. Réponse de Arnoux, enfin, disons, ce que dit Arnoux quand il entre. Tiens, qui vous ramène ? Qui vous ramène ? C'est assez intéressant que Flaubert ait choisi qui. Parce que normalement, on devrait dire, qu'est-ce qui vous ramène ? Quel propos ? Quel sujet ? Qu'est-ce que vous avez à dire ? Et ce qui fait écho à un autre qui, bizarrement, qui se trouve à la page 65. Regardez en bas de la page, justement avec Regimbard. Comment la rencontrer maintenant ? La solitude se rouvrait autour de son désir plus immense que jamais. C'est la tête de Frédéric. Venez-vous la prendre ? Dit Regimbard. Prendre qui ? L'absinthe. Donc, Frédéric est perdu un peu dans ses pensées de Madame Arnoux, bien sûr. Et on lui propose de prendre quelque chose. Et il répond, prendre qui ? C'est un peu osé de la part de Flaubert. Parce que ici, on est presque dans le côté un peu obscène dont il parlait tout à l'heure à propos d'un peintre. Prendre qui ? Prendre, ça veut dire faire l'amour, hein, avec quelqu'un, comme ça, un peu brusquement. Prendre qui ? Donc, la question aurait dû être, prendre quoi ? Si Frédéric est vraiment poli, comme il le dit, hein, il devrait dire, prendre quoi ? Et on lui répondrait, l'absinthe, c'est très bien. Si on voulait lui parler d'une jeune femme, on lui ferait comprendre d'une autre façon. Donc, c'est une sorte de court-circuit, hein, dans la tête de Frédéric qui lui fait répondre « Prendre qui ?» parce qu'il était à son image de Madame Arnoux. Bon, et ce qui est quand même étonnant puisque c'est le même qu'à la page 67, cette fois dans une phrase d'Arnoux, « Tiens, qui vous ramène ?» Et à chaque fois, dans l'esprit de Frédéric, le « qui ?» correspond à la même personne, Madame Arnoux. Donc c'est comme si le langage de Flaubert était en quelque sorte contaminé par l'image mentale de Madame Arnoux, au point que les mots même de Flaubert se déforment. C'est comme si Frédéric venait modifier le texte de Flaubert. Bon, une sorte de passage comme ça, un peu exagéré, du discours indirect libre, juste avec un mot. Alors bon, de façon très plate, il demande si on n'a pas trouvé par hasard son calepin. La réponse d'Arnoux va dans le sens un peu sarcastique d'ailleurs. « Celui où vous mettez vos lettres de femme, » dit Arnoux. Ah, donc on voit bien, c'est la façon de communiquer, de s'amuser, de se moquer les uns des autres entre hommes. Et pour Frédéric, c'est encore un peu nouveau. Donc il va rougir comme une vierge au lieu de simplement répondre « Mais bien sûr, mon cher !» ce qui serait tout à fait normal. Et alors l'attitude de Arnoux se montre là encore aussi vulgaire que la première fois sur le bateau. Il était habillé en bleu, blanc, rouge avec des bottes, enfin, il est toujours vulgaire, il est naturellement vulgaire. Et ça se montre tout de suite, il vient lui toucher un peu sous le menton comme ça, et donc l'autre recule, et puis il se dit que non, vraiment trop vulgaire, il va abandonner Madame Arnoux, elle-même... comme il dit, contaminé, c'est ça ? Diminué par la vulgarité de son mari. C'est l'avant-dernière ligne. Madame Arnoux elle-même se trouvait comme diminuée par la vulgarité de son mari. Ce que j'ai repensé en contaminé, la vulgarité du mari contamine l'image de la femme. Alors, encore le hasard, ou la coïncidence, là c'est presque pareil, il reçut dans la même semaine une lettre où Deslauriers annonçait qu'il arriverait et il va se rejeter, comme on dit, rejeter violemment sur cette amitié plus solide, cette relation plus solide. Alors, le thème du hasard ou de la coïncidence, comme je le développerai un peu plus tout à l'heure, est bien sûr un thème très très ancien, très très vieux, dès les débuts de la philosophie, dans tous les domaines, dans toutes les cultures, il est question de choses qui arrivent de façon coïncidente, c'est-à-dire qui arrivent en même temps par hasard. Mais ce hasard produit, du fait de la présence d'une personne à cet endroit-là, un certain effet. Effet sur la réalité des choses et effet sur la personne elle-même, que l'on va appeler hasard, accident, destin et toutes sortes de noms, bien sûr, qui vont arriver. Et on y reviendra donc dans très peu de temps à ce propos. L'arrivée de son ami Deslauriers se produit, disons, à ce moment précis. C'est pas une semaine avant, c'est pas une semaine après. Et de façon encore plus coïncidente, Flaubert a en quelque sorte concentré pour montrer l'excès ou l'exagération de la coïncidence. Non seulement il reçoit la lettre de l'arrivée de Deslauriers, mais au moment même où Deslauriers doit arriver, et Frédéric est prêt à sortir pour aller le chercher, c'est Arnoux qui arrive, et qui arrive de façon complètement improbable. D'abord, on ne sait pas comment Arnoux connaît son adresse, il a dû la demander à quelqu'un, et donc quel est l'intérêt d'Arnoux pour inviter ce jeune garçon? Est-ce que Arnoux ne serait pas si vulgaire que ça et qu'il aurait compris qu'il avait blessé ce garçon l'autre jour? On n'en sait rien. Flaubert ne donne absolument aucune explication sur les raisons pour lesquelles Arnoux arrive à ce moment-là pour inviter Frédéric. Donc, je vous lis ces quelques lignes là, après le premier paragraphe. Le jeudi matin, il s'habillait pour aller au-devant de Deslauriers quand un coup de sonnette retentit à sa porte. Arnoux entra. Un mot seulement. Hier, on m'a envoyé de Genève une belle truite. Nous comptons sur vous tantôt, à 7h juste. C'est rue de Choiseul, 24 bis. N'oubliez pas. Frédéric fut obligé de s'asseoir. Ses genoux chancelaient. Il se répétait. Enfin, enfin, Puis il écrivit à son tailleur, à son chapelier, à son bottier, et il fit porter ses 3 billets par 3 commissionnaires différents. La clé tourna dans la serrure, et le concierge parut avec une malle sur l'épaule. Frédéric, en apercevant Deslauriers, se mit à trembler comme une femme adultère sous le regard de son époux. Alors, par cette comparaison de femme adultère avec l'époux, vous voyez bien le grotesque, le burlesque que Flaubert introduit dans cette scène et qui vient là aussi de la coïncidence. Pensez aux pièces de Molière, pensez aux pièces de Marivaux, pensez aux pièces de Musset ou d'autres. Lorsque la coïncidence se produit, c'est toujours avec un comportement burlesque des personnages. Et il y a peut-être d'autres hommes de théâtre qui transforment la coïncidence en tragédie ou en drame, mais nous pensons tout de suite à des scènes burlesques où quelqu'un doit se cacher dans un placard ou se travestir en autre chose. Bon, c'est tout à fait grotesque et burlesque. En même temps, c'est un peu ridicule puisque Frédéric n'a pas spécialement à se cacher de son ami, sauf à penser qu'il y aurait une sorte d'amitié un petit peu excessive, presque comme un amour homosexuel entre les deux, bien sûr inconscient, non connu, non consommé, et qui serait alors une possibilité de jalousie pour l'autre d'avoir la concurrence d'une femme. Bon, mais là aussi, comme je disais déjà l'autre jour, Flaubert ne laisse rien entendre d'une sorte d'homosexualité dans l'amitié. Et beaucoup de propos sur l'homosexualité sont là aussi anachroniques, c'est-à-dire déplacés d'une époque dans une autre à partir de nos points de vue, de notre mentalité d'aujourd'hui qui ne sont pas celles d'autres époques. Donc soyons prudents avec l'interprétation d'homosexualité, toujours possible, ouverte, il n'y a pas à s'opposer à ça, mais il n'y a pas non plus de terme précis chez Flaubert qui montrerait vraiment cette concurrence au-delà d'une simple comparaison, de réaction au moment de l'ouverture de la porte. D'ailleurs, Frédéric va expliquer finalement à Deslauriers ce qui lui arrive et cette coïncidence vraiment troublante du même jour. Donc, bien sûr, il avait acheté des choses à manger, à boire pour leur retrouvaille, et il sera obligé de le laisser tout seul. Page 69, en haut de la page. Donc, Frédéric dit « Oh, ne te gêne pas, si tu avais ce soir quelque chose d'important, point de suspension. » Là, c'est une sorte, comme on dit aujourd'hui, de perche. On tend la perche, on offre à l'autre la possibilité de dire « Ah, mais justement, j'avais un rendez-vous, bon, ce qui serait très bien pour Frédéric. » Mais, réponse, « Allons donc, je serais un fier misérable. » Point de suspension, c'est-à-dire « Si j'avais autre chose à faire ce soir, je serais un fier misérable, je serais vraiment un misérable insultant pour toi. » Donc, je suis ton ami, j'arrive, je reste avec toi, bien sûr. C'est ce que ça veut dire. Cette épithète, lancée au hasard, toucha Frédéric en plein cœur, comme une allusion outrageante. En effet, si l'autre affirme que son amitié est au-dessus de la possibilité d'avoir autre chose à faire, ça n'est pas le cas de Frédéric. Et donc, c'est comme s'il était, lui, accusé par cette phrase de Deslauriers, ce que Deslauriers ne sait pas. C'est-à-dire, Frédéric se voit lui-même en misérable, c'est-à-dire qui ne respecte pas son amitié, qui n'est pas honnête, qui n'est pas capable de répondre à l'amitié de l'autre en restant avec lui. Et on sent, Frédéric, vraiment prêt à abandonner son dîner chez Arnoux pour respecter son amitié avec des lauriers. Donc là, nous sommes dans une situation un peu cornélienne, hein, de Corneille. C'est ce qu'on appelle le dilemme. Qu'est-ce que c'est le dilemme ? C'est lorsqu'il y a un choix dont les deux côtés sont importants et également dramatiques dans leurs conséquences. Et il est presque impossible de choisir, et parfois on préfère même se retirer, c'est-à-dire choisir une troisième solution, fuir par exemple, plutôt que de choisir l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des options qui étaient prévues. Mais évidemment, le dilemme ici n'est pas, comme chez Corneille, tragique. Il est très très momentané, hein, très instantané, et il va passer relativement vite. Pourquoi ça passe vite ? Eh bien parce que nous sommes encore dans le burlesque, je dirais moliéresque, à la façon de Molière, c'est-à-dire que pendant que les deux amis sont ensemble, les personnes auxquelles Frédéric a commandé un chapeau, des bottes, un vêtement, etc., vont arriver. Et évidemment, Deslauriers va comprendre que ces choses qui ont été commandées et qui arrivent ne sont pas pour fêter son arrivée, puisque ce sont des habits pour sortir et pas pour rester à la maison. Donc, un commissionnaire arrive, le bottier, et puis ensuite un autre, et puis un autre, au point que Deslauriers va comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, ça se trouve en bas de la page, c'est ça ? Oui, en bas de la page 69. Donc, cette humiliation gêna Frédéric, il reculait à faire son aveu. Enfin, il s'écria comme saisi par une idée. « Ah, saprelotte, j'oubliais. Quoi donc ? Ce soir, je dîne en ville. Chez les Dambreuse ? Pourquoi ne m'en parles-tu jamais dans tes lettres ?» Ah, donc ça, c'est la recommandation de Deslauriers que l'on a vue auparavant. Ce n'était pas chez les Dambreuse, mais chez les Arnoux. « Tu aurais dû m'avertir, » dit Deslauriers. « Je serais venu un jour plus tard. »« Impossible, » répliqua brusquement Frédéric. « On ne m'a invité que ce matin, tout à l'heure. » Donc il avoue et il fait bien. Hein, c'est beaucoup plus simple, comme ça. Et pour racheter sa faute et en distraire son ami, il dénoua les cordes emmêlées de sa malle, il arrangea, etc. Il essaye de se faire bien voir. Alors on arrive enfin, hein, le voilà parti, et il arrive rue Saint-Jacques. Deslauriers à la dîner rue Saint-Jacques. Alors Frédéric, lui, va à son adresse, rue de Choiseul, et il s'arrête dans l'escalier, son cœur bat fort. On est un peu comme Emma Bovary allant au bal. Hein. Il y a un côté première fois et le cœur qui bat, hein, comme ça. Voilà. C'est un peu compréhensible. Et puis, l'entrée, la description, les personnages, les personnalités qui sont rencontrées dans l'appartement, enfin, les différentes situations que Frédéric rencontre. Alors, un peu comme dans l'appartement au-dessus, hein, disons, de l'art industriel, il va y avoir une galerie de portraits, de personnages, d'objets dans l'appartement, un peu de la même façon. Et bien sûr, comme avec Arnoux, Frédéric essayait de se faire remarquer, de se montrer intéressant, et ça n'a pas marché avec Arnoux, ici c'est une sorte de répétition avec Madame Arnoux. C'est-à-dire que les deux épisodes sont, dans des cadres différents, une sorte de répétition de la même tentative. J'arrive, c'est la première fois, je suis jeune et beau, s'il vous plaît, remarquez-moi, faites attention à moi. Et cette volonté de paraître pour soi-même, hein, qui pouvait être, disons, dans l'imaginaire romantique de Frédéric. Et bon, ça va marcher un petit peu mieux peut-être que dans l'appartement de d'Arnoux, mais à peine. Hein. Voilà, comment vous décrire ça en allant vite? Donc d'abord à la page 70, on passe par l'antichambre, à peu près au milieu de la page. À ce moment-là, on dit que Madame Arnoux est en train de s'habiller. Et puis on rencontre la petite fille. Et en bas de la page 70, Frédéric qui commence à s'adapter, hein, Flaubert écrit « Il n'éprouvait plus aucun trouble. Les globes des lampes, recouverts d'une dentelle en papier, envoyaient un jour laiteux et qui attendrissaient la couleur des murailles. » Donc on voit ce jour laiteux, cet attendrissement et une sorte de calme qui passe. Et Frédéric s'est composé une attitude. Il est un peu moins surpris peut-être qu'à l'art industriel et il essaye de paraître. Alors bien sûr, il remarque des objets. Il va remarquer d'ailleurs le petit coffre en argent que Arnoux a offert à sa femme et que l'on trouve très beau hein, à ce moment-là et qui servira beaucoup plus tard hein, dans un autre épisode au moment où Frédéric doit se marier avec Madame d'Ambreuse. Disons que tout est presque prêt, hein, organisé. Et puis, dans une vente aux enchères, Madame d'Ambreuse retrouve cet objet et veut absolument l'acheter. Et elle y parviendra, mais Frédéric sera d'un seul coup tout à fait dégoûté de cette attitude de Madame d'Ambreuse et se détournera d'elle. Et donc, un simple objet qui se trouve ici posé va servir, on va le voir plusieurs fois, et il va revenir jusqu'à devenir un objet tout à fait criminel ou négatif, en tout cas, dans la relation avec quelqu'un d'autre. Alors, on peut parler d'une sorte de prolepse, dans le sens où un objet est posé pour servir beaucoup plus tard. Prolepse, c'est ce qui est mis en avant, ce qui est posé là devant et qui, pour l'instant, ne sert à rien en apparence. Donc c'est un bel objet, en effet, on complimente Madame Arnoux sur le fait que son mari l'aime beaucoup parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour cet objet du Moyen-Âge, hein, voyez-vous. Bon, il y a un côté un peu troubadour, hein, le mot d'ailleurs sera employé de ce côté-là. Et puis le même objet servira plus tard à une rupture. Au nom de Madame Arnoux, au nom du souvenir de Madame Arnoux, qui était la seule propriétaire éternelle de cet objet. Il y a d'ailleurs deux, trois références au Moyen-Âge, hein, dans cet objet d'une part, et puis des tentures, de l'organisation de la maison, ou bien en bas de la page 71... Il y a ce que j'appelle une étagère hollandaise se dressait devant un râtelier de chibouk. Alors, des chibouk, ce sont des pipes avec un long tuyau qui viennent d'Orient, qui sont utilisées en Orient. Donc, on peut bien sûr supposer que Flaubert en a vu lui-même. Et on a même utilisé, en bas de la page 71, hein, c'est la dernière ligne de la page 71, un râtelier de chibouk. Donc des objets comme ça, et là encore, un peu comme dans l'art industriel, un aspect assez hétéroclite, hein, c'est-à-dire des choses posées comme ça les unes à côté des autres, sans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le goût. L'hétéroclite, c'est le mélange hein, de tout et n'importe quoi sans véritable organisation. Cet hétéroclite, il sert bien souvent à accuser des personnes de n'avoir pas de goût, de n'avoir pas de bon goût. Et paradoxalement, l'hétéroclite sert aussi dans la grammaire. La façon de Flaubert de coller ensemble des phrases et des événements les uns après les autres sans expliquer précisément ce qui les sépare est une forme d'hétéroclite. Et l'hétéroclite dans la grammaire ou dans la syntaxe, ça s'appelle l'énumération ou la parataxe. Là, on met des choses côte à côte et on fait des listes et on ne voit pas très bien qu'est-ce que les choses font les unes à côté des autres. Alors la parataxe, c'est par exemple l'utilisation de virgules pour séparer des éléments sans petits mots et explications, verbes, etc. L'utilisation chez Flaubert de point-virgule, très importante aussi, dans les énumérations, qui fait que les choses ne sont pas reliées entre elles grammaticalement. C'est l'esprit du lecteur qui doit essayer de leur trouver une relation, s'il peut le faire. Et généralement, il ne peut pas le faire, parce que c'est précisément hétéroclite. Alors, cet élément paradoxalement un peu négatif, puisque l'hétéroclite mène au mauvais goût, on montre l'hétéroclite dans l'appartement et ça veut dire le mauvais goût, l'absence de goût, ou bien un peu comme chez les antiquaires, on met tout à côté de n'importe quoi parce qu'on essaye de vendre des choses. Mais, alors, paradoxalement, cet hétéroclite se transforme en une qualité dans le texte de Flaubert parce que la vitesse du texte se trouve augmentée et donc la rencontre par hasard de personnages, d'événements, de choses se trouve complètement accélérée. Et c'est ce qui nous amène justement à l'aventure du mot hasard dans le sens où le hasard, c'est bien sûr la présence du mot hasard ou d'autres mots qui sont un petit peu du même sens, du même champ lexical. Mais le hasard, c'est également la construction des phrases de Flaubert qui met côte à côte des choses sans expliquer pourquoi elles arrivent en même temps. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les marches de Tortoni. Il y a du Sarrier, il y en a un autre qui arrive, il n'y a même pas le... il lui passe son épée et c'est fini. Là aussi, une forme de parataxe, et même plus que la parataxe, c'est l'absence d'un morceau. On ne dit pas que Sénécal utilise son épée, on saute par-dessus, ça s'appelle une ellipse. Et l'ellipse, c'est une façon encore plus rapide de produire de l'hétéroclite. Parce que à cause de l'ellipse, on va retrouver côte à côte deux choses qui devraient être séparées par une autre, une explication par exemple, une relation, et on passe de l'une à l'autre sans explication. Voilà comment Flaubert construit dans l'éducation sentimentale le mécanisme du hasard que vivent les personnages. Voilà. Alors peut-être la semaine prochaine, je reviendrai sur quelques éléments de la rencontre avec Madame Arnoux. Mais si on veut résumer pour aujourd'hui, en deux minutes, lorsque Frédéric arrive enfin à s'approcher d'elle, à lui parler un peu, et même qu'ils arrivent à se toucher, la sensation de Frédéric est bien sûr excessive, exagérée. C'est une sensation de pénétration atomique. C'est là que l'exagération arrive. Alors à la page 75, « en haut de la page 75, Madame Arnoux s'était avancée dans l'antichambre, Dittmer et Hussonnet la saluaient, donc ils partent, elle leur tendit la main. Elle la tendit également à Frédéric, qui également est très important. Ça veut dire, elle le traite comme les autres. Et il éprouva comme une pénétration à tous les atomes de sa peau. Une sorte d'effet magique, si vous voulez, du toucher de Madame Arnoux. Waouh ! Très puissant. Ça commençait d'ailleurs, ça se préparait à la page 73. En haut de la page 73, là aussi, le petit paragraphe en haut de la page, Frédéric écoute les paroles. Frédéric, en écoutant ces choses, regardait Madame Arnoux. Elle tombait, donc c'était ces choses, les propos qu'il écoute, elle tombait dans son esprit comme des métaux dans une fournaise, s'ajoutait à sa passion et faisait de l'amour. Donc l'amour est une sorte de matière qui provient de la fusion de différents éléments. Donc là aussi, on est du côté du magique, mais également du côté de l'alchimie. L'alchimie au sens justement magique, mystérieux, et en même temps un peu scientifique aussi. Hein. Alors cette idée que l'amour est une alchimie, c'est une métaphore bien sûr très ancienne, où on voit bien que la personnalité d'un individu, son caractère, son habitude, son comportement, se trouve transformé par le sentiment de l'amour qui peut être très rapide, très violent. Donc, on va trouver cette métaphore de l'alchimie. Ici, Flaubert la réutilise, la réactive, il ajoute le sens du feu, donc la chaleur, et en même temps, des paroles sont comme des métaux qui se mélangent pour former une sorte de nouvelle matière inconnue jusque-là de Frédéric, et cette matière c'est de l'amour. Et donc c'est important que l'amour soit précédé de, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas comptable, c'est pas un amour, c'est pas l'amour, c'est de l'amour, comme vous mettez du sucre dans votre café, quoi, hein, quelque chose qu'on prendrait à la cuillère. Et d'ailleurs, dans cette page, c'est en bas de la page justement qu'on voit ce petit coffret à fermoir d'argent, dans les 8 dernières lignes, en bas de la page 73, elle alla chercher dans son boudoir le coffret à fermoir d'argent qu'il avait remarqué sur la cheminée. C'était un cadeau de son mari, etc. Donc si vous voulez voir quand ce coffret va servir, c'est à la page 504 et 505. Notez-le, je n'ai pas le temps d'y aller maintenant, 504 et 505. Vous verrez ça tranquillement à la maison. Et puis encore, l'alchimie revient, si vous voulez. C'est ça ? À la page 82. Donc c'est au chapitre suivant, page 82, lorsque Frédéric revoit Madame Arnoux, qu'il se promène avec elle dans la rue, et en bas de la page 82, Frédéric devient un assidu des dîners, et à la fin du paragraphe, on énumère là encore des objets de Madame Arnoux, et donc, alors, des morceaux de son corps, ses ongles, bon, sa robe de soie, la senteur de son mouchoir, son peigne, ses gants, ses bagues, étaient pour lui des choses particulières, importantes comme des œuvres d'art, presque animées comme des personnes. Toutes lui prenaient le cœur et augmentaient sa passion. Donc c'est la suite en quelque sorte de cette alchimie qui entraîne dans sa fusion matérielle tous les objets de Madame Arnoux. La conclusion de ce chapitre, c'est peut-être la fin du paragraphe où j'étais à l'instant, page 75, juste après cette pénétration à tous les atomes de sa peau, il quitta ses amis, etc. Et à la fin du paragraphe, qu'importait d'ailleurs, puisqu'il pouvait maintenant la fréquenter tout à son aise, vivre dans son atmosphère. Alors ça, c'est un fait de société, si vous voulez. Lorsque vous avez été admis une fois chez une personne, ça veut dire que on vous a reconnu comme une personne digne de fréquentation, et donc vous pouvez revenir. Bien sûr, on ne sera pas toujours là pour vous recevoir, mais au moins vous avez le droit de vous présenter à la porte. Ce qu'on a vu la semaine dernière avec les Dambreuses, Frédéric ne pouvait pas, sans une bonne raison, le faire. Eh bien, ayant été accueilli une fois chez les Arnoux, il peut maintenant la fréquenter tout à son aise, ce qui est une façon de conclure le chapitre. Alors j'en viens à mon hasard pour les minutes qui nous restent. Il y a ici donc beaucoup d'occurrences du mot hasard, en gros une cinquantaine. Une cinquantaine, ça fait déjà beaucoup hein, pour traiter en quelques minutes. Et ça prend d'ailleurs beaucoup de temps pour retrouver les pages du livre, même avec le texte électronique. Donc vous avez, si vous allez sur le site internet de Intratexte, dont je vous ai donné l'adresse l'autre jour, vous pouvez tout à fait demander le mot hasard et retrouver cette liste. Vous pouvez cliquer sur les parties ici qui sont les parties et chapitres du livre et vous allez directement retrouver la ligne, le paragraphe. À côté, j'ai mis entre parenthèses le numéro de la page ici, dans notre édition, et une lettre, une ou deux lettres. S, F, C, E. Bon. Ces lettres, je vous en ai expliqué la légende ici, en bas de la colonne de droite. S signifie que le hasard est simulé ou bien utilisé. On va voir des exemples hein, juste après. F signifie que quelque chose est tout à fait fortuit. Alors fortuit, c'est vraiment le hasard et ça n'a pas de sens. Ça ne s'utilise pas. C, je l'ai utilisé pour la chance et son contraire. Alors souvent, le hasard devient une chance ou devient une malchance. Donc, pour moi, c'est la même chose. Parce que ce qui est une chance pour un est une malchance pour un autre. Hein, c'est tout à fait... Elle est arbitraire. Ça dépend de la situation. Et enfin, un sens E, qui est le sens égaré ou indifférent. Alors, on peut se débarrasser tout de suite de ce sens E, si vous voulez, en regardant un ou deux exemples. Le premier que vous avez, c'est première partie, chapitre 4, page 75. Donc ici, sur la ligne, vous avez 75 E. Ça va, c'est compréhensible. Alors, toujours devant lui, au hasard, éperdu, entraîné. On peut vérifier sur la page, si vous voulez. C'est justement la page où je viens de m'arrêter. À peu près au milieu de la page, la fin du paragraphe. Il est donc sorti de chez les Arnoux et dans la rue, comme ça il va un peu n'importe où, hein, parce qu'il est trop impressionné. Donc, battant le sol du talon, frappant avec sa canne les volets des boutiques, il allait toujours devant lui, au hasard éperdu, entraîné. Donc ce hasard, c'est une indifférence du lieu. N'importe quel côté, ça n'a pas d'importance. Il y en a quelques-uns comme ça, qui correspondent principalement à des moments d'émotion excessive ou au contraire des moments de déprime où quelqu'un va marcher au hasard dans n'importe quelle rue. Venons-en maintenant au hasard avec la lettre S. Et c'est pour moi une grande découverte, c'est-à-dire que j'ai pensé que Flaubert utilisait le hasard d'une façon assez générale, avec plutôt des événements de chance ou de malchance. Et je me suis aperçu, en comptant le nombre de S, et donc je vous ai mis entre parenthèses ici 23, c'est-à-dire presque la moitié du nombre de mots hasard, eh bien, dans presque la moitié des cas où Flaubert a utilisé le mot hasard, il a voulu dire un hasard utilisé, un hasard simulé, un hasard hypocrite. C'est-à-dire un hasard de parole. Quelqu'un dit que quelque chose arrive par hasard, mais ça n'est pas vrai. Il est venu exprès. Alors ça m'a étonné parce que je ne l'avais lu nulle part. Je l'ai découvert ici, par hasard, au sens de la chance, cette fois. Regardons un exemple, si vous voulez. Le premier, c'est justement à la page 27, on l'a déjà vu. Que signifie le hasard au milieu de la page 27? Il alla manger dans une auberge. Un quart d'heure après, il eut envie d'entrer, comme par hasard, dans la cour des diligences. Comme par hasard. Et oui, il y a comme à côté. Comme par hasard, ça veut dire je simule le passage par hasard, mais c'est tout à fait voulu, c'est tout à fait organisé. On verra que souvent, d'ailleurs, il y a comme à côté, l'expression, donc comme par hasard, comme un hasard, mais pas toujours. Par exemple, à la page 212, donc là je vous l'ai mis en gras, hein, c'est dans la deuxième partie, deuxième chapitre, page 212, j'ai mis le numéro de la page en gras. Alors qu'est-ce que c'était ici? Est-ce ma faute à moi s'il y a dans la même rue une dame Arnoux? Ah oui, donc on essaye de s'expliquer, hein, et de mentir en fait, c'est tout à fait le mensonge. Est-ce ma faute à moi s'il y a dans la même rue une dame Arnoux? Oui, mais pas Jacques Arnoux, reprit-elle. Alors il se mit à divaguer, protestant de son innocence. C'était une méprise, un hasard, une de ces choses inexplicables, comme il en arrive. Voilà comment un amant essaye de mentir très mal. Ça marche pas du tout, et l'autre n'y croit pas du tout. Donc, c'est la prétention du hasard, hein. Prétendre que c'est le hasard simulé. Avec, comme par exemple à la page 390, page 390, alors là, c'est beaucoup plus grave encore, hein. Il est dans la voiture avec Arnoux qui dort avec un fusil. Donc là, bon, vous relirez, hein, le passage tranquillement pour vous apercevoir de l'horreur, hein. En bas de la page 389, si vous voulez, la page d'avant, la fin du paragraphe, Arnoux dormait les deux bras ouverts. En bas de la page 389, hein, Arnoux dormait les deux bras ouverts. Et comme son fusil était posé la crosse en bas un peu obliquement, la gueule du canon lui arrivait sous l'aisselle. Frédéric le remarqua et fut effrayé. En effet, c'est dangereux, hein, le fusil est pointé sur Arnoux. Mais non, j'ai tort, il n'y a rien à craindre. S'il mourait, cependant, on est presque au théâtre. Et tout de suite, des tableaux à n'en plus finir se déroulèrent, il s'aperçut avec elle. Enfin, il rêve, quoi, la belle vie, sans M. Arnoux qui aurait été tué. Et à la fin de ce paragraphe, page 390, on pouvait le pousser du bout de l'orteil. On, c'est n'importe qui, c'est la Providence. Le coup partirait, ce serait un hasard, rien de plus. Alors ici, donc, je vous ai mis entre parenthèses, donc page 390, SC, c'est-à-dire S au sens du hasard prétendu. Hein, on va dire que c'est par hasard, mais en réalité, ça deviendrait une chance extraordinaire pour Frédéric. Et donc c'est ce genre de cas, SC, où l'on voit des gens tout à fait machiavéliques, qui organisent des plans où des sortes d'accidents arrivent à des personnes. Vous voyez ça dans des films où on a scié la partie du frein pour que la voiture s'écrase et quelqu'un va mourir par hasard. Mais bon, ce hasard a été bien sûr organisé ou, comme on dit, instrumenté. Instrumenté ou instrumentalisé le hasard, c'est-à-dire faire croire que c'est un hasard, mais qui a été bien construit par quelqu'un, et le hasard n'étant que l'apparence des choses pour les autres. Voilà, donc vous pourrez prendre différents cas, on pourra en rediscuter si vous voulez, hein, si vous pensez que tel ou tel exemple ne convient pas tout à fait à la dénomination que j'ai choisie. Et donc ce hasard simulé apparaît sous forme majoritaire, presque la majorité, disons, 23 sur une cinquantaine. Ça, c'est tout à fait étonnant, et ça veut dire aussi que dans la construction romanesque, beaucoup de personnages mentent, du mensonge, souhaitent utiliser des événements à leur intérêt. Et ils sont prêts à dire que c'est le hasard. Ben, c'est là par hasard. On fait ça par hasard. Mais en réalité, ils l'ont tout à fait voulu. Et donc, ils utilisent, ils poussent, ils forcent le hasard, comme on dit justement cette expression, forcer le hasard. Alors, à la fin, je vous ai mis quelques autres mots que vous pouvez d'ailleurs retrouver avec le site internet, Intratexte. Bien sûr, les mots chance, mais regardez les trois occurrences du mot chance, il n'y en a pas beaucoup plus dans le livre. Hein. Les trois sont des oxymores. Horrible chance, mauvaise chance, chance mauvaise. C'est étonnant, cette association. Et il n'y a pas de chance au sens positif. Le sort, l'adjectif fortuite, et on pourrait chercher encore d'autres mots, c'est-à-dire élargir, si vous voulez, avec les notions de bonheur, malheur, occasion, risque, etc. Et puis, comme j'ai mis en dernière ligne, en revanche, hasard sans mot, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, avec parataxe, ellipse, etc., des choses qui arrivent vraiment par hasard dans le roman de Flaubert, il n'y a pas de mot pour cela. Et c'est justement quand il n'y a pas de mot que c'est vraiment le hasard. On l'a vu l'autre jour, Frédéric passe dans la rue, un encombrement de voitures lui fait tourner la tête, il voit l'art industriel, Arnoux, c'était là. À un autre moment, il se tourne, c'était lui. D'un seul coup, c'était quelqu'un. Et l'épisode qu'on citait tout à l'heure de la mort de Dussardier, par exemple. Voilà donc cette aventure du mot hasard qui me paraît un des plus intéressants dans le livre et qui montre bien que la présence du mot signifie quelque chose, mais que l'absence de mot signifie aussi quelque chose dans le même champ sémantique du hasard. Voilà. Si vous avez des questions, on verra la semaine prochaine. Notez-les, n'oubliez pas. À bientôt, et j'ai donné les pages, oui, très bien, pour la semaine prochaine. Merci.